Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders, and I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words.
Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es ser el gran pito y Ron Wilson. Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado.
Yo sí quiero que llegue a ser presidente, caballo. Porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trump. Porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos.
Radio Libertaire 89.4.
C'est quoi cette histoire ? Vas-y, allez-y, parlez.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui commence. La radio sans Dieu ni maître ni publicité. Ce soir, c'est Jean-Mathias qui va vous présenter le livre Les ressorts du fascisme de Jason Stanley. Et nous venons d'écouter un morceau de Brugira qui s'intitule President Trump.
President Trump. Alors, on espère qu'on ait entendu à l'antenne, parce qu'on démarre une émission avec une équipe renouvelée, vu que José a décidé de s'installer à la campagne. Et que du coup on a une nouvelle équipe technique. Voilà, on espère que tout va bien pour tout le monde. Alors, Les ressorts du fascisme, c'est le livre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, livre de Jason Stanley, qui est un politiste américain. Livre publié en 2020 aux États-Unis. Et traduit et édité aux éditions Elliott, qu'on salue au passage. Nouvelle maison d'édition avec un catalogue riche en publications qui vont nous occuper sans doute lors des prochaines émissions. Donc ça a été édité en janvier 2022. Jan Stanley est professeur à l'université de Yale, donc une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Et donc 2020, eh bien en fait, c'est un livre qui est paru à la fin et qui a été rédigé pendant le premier mandat de Donald Trump, d'où notre morceau de générique. Et on sent évidemment à la lecture de ce livre que il a été écrit ben, évidemment sous le un peu dans l'urgence hein, de cette élection de Donald Trump.
La première
voilà. Donc c'est un livre qui est éminemment d'actualité parce que ben, comme vous le savez, on en a repris pour 4 ans. Et dans ce livre-là, en fait, Stanley essaie de définir en fait les caractéristiques idéologiques du fascisme. Alors, du fascisme, qu'il définit de manière assez large comme une forme de nationalisme extrême, pourrait-on dire. Le titre anglais, en fait, dit un peu aussi la manière dont il envisage cette catégorie-là, puisque, en fait, c'est le titre en anglais, c'est « How Fascism Works, the Politics of Us and Them ». Donc, la politique, voilà, « de et nous ». Donc l'idée effectivement de construire un ennemi intérieur et tout un système idéologique autour de cela. Alors le livre est très bon, je le dis tout de suite, parce que c'est un livre en fait qui est extrêmement clair, extrêmement précis. Il n'y a pas d'idée révolutionnaire ou pas d'analyse extraordinairement nouvelle dans la façon dont Stanley présente en fait ce phénomène politique qu'est le fascisme. En revanche, il y a beaucoup d'exemples contemporains et au final, c'est assez convaincant. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous parle aussi bien de Trump, évidemment, que de Erdogan, que de Poutine, que d'Orban, que de Milosevic. Et pour autant, même si on n'a pas affaire à chaque fois avec à des régimes où il y a des gens qui défilent en chemise noire ou brune dans la rue en levant le bras, bah son analyse est assez convaincante parce qu'il arrive à montrer que il y a un certain nombre de thèmes idéologiques en cohérence, on va dire les uns avec les autres, qui bah sont caractéristiques effectivement aussi bien de ces dirigeants et des stratégies politiques qu'ils développent aujourd'hui, caractéristiques de ces régimes-là, comme effectivement de ceux qu'on a pu connaître dans les fascismes historiques des années 30, que ce soit en Italie, en Allemagne, au Portugal ou en Espagne, ou ailleurs, en Amérique latine notamment. Et au final, ça donne un livre qui effectivement est assez, alors qui est pas complètement rassurant, mais qui est éclairant parce qu'en fait, il arrive effectivement à dégager différentes pièces de ce puzzle-là, je dirais, hein, de ce puzzle contemporain idéologique. Je le dis, hein, c'est un politiste, donc en fait, il s'intéresse aux idées politiques. Et voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu de ce point de vue. Voilà.
Et donc, il parle d'une analyse du fascisme. Je sais pas, en Italie, sous Mussolini, pour dégager les traits et puis l'appliquer maintenant.
Pas du tout. C'est pas non plus une approche historienne. Alors, en fait, je peux vous donner effectivement les différents thèmes en fait hein, qui dégagent. D'une part, en fait, le premier point duquel il part, c'est en fait le rapport au passé, le rapport à l'histoire qui est remplacé par en fait une mythologie, hein, délibérée en fait, voilà, explicite, voulue, revendiquée. Le rôle de la propagande avec la destruction de l'idée de vérité objective. Et avec voilà, avec un certain nombre de thématiques de cet ordre-là, l'anti-intellectualisme, c'est-à-dire la manière dont ces régimes-là ciblent systématiquement et délibérément la recherche universitaire en général, l'irréalité, c'est-à-dire les entreprises effectivement systématiques pour détruire toute base d'expérience commune de ben, voilà du réel. Et y substituer ben, en fait, des fantasmes ou des émotions. L'obsession de la hiérarchie. L'obsession aussi de l'attitude victimaire, c'est-à-dire effectivement la désignation d'un certain nombre d'agresseurs fantasmés, qu'il s'agisse des femmes, des woke, des antiracistes ou autres.
La création d'un ennemi intérieur, en fait.
Alors, l'ennemi intérieur, effectivement, la loi et l'ordre, hein, c'est le chapitre 7, où effectivement, la manière dont effectivement la loi et l'ordre est pensée justement comme une réaction, comme une restauration d'un ordre complètement fantasmé contre un ennemi intérieur. Alors bon, ça peut être les Noirs aux États-Unis, ça va être les femmes, le musulman en Europe. L'anxiété sexuelle, avec en fait un point mis en avant justement sur le type de cible en fait visé par les discours fascistes. Alors, chapitre 9, il appelle ça Sodome et Gomorre. En fait, c'est la constante de la thématique anti-urbaine aussi qu'on trouve, avec un imaginaire effectivement assez cohérent en réalité, hein, d'une opposition entre la terre qui ne ment pas, voilà, ça c'est pas nouveau, et les villes qui corrompent et dans lesquelles effectivement les gens qui ethniquement devraient effectivement reproduire la nation ou l'identité nationale sont en situation assiégée par des étrangers de tous les côtés. Et puis il termine par un dernier chapitre qui s'appelle Arbeit macht frei, hein, c'est de l'allemand, je traduis pas. Dans lequel il s'agit de prôner finalement une certaine conception de la valeur travail, comme on dit chez Laurent Wauquiez, et qui va effectivement construire aussi une figure de parasite oisif qui est là en fait pour affaiblir et pour parasiter le produit national, quoi, hein, le produit de l'effort du travail national. Alors effectivement, pris séparément, tous ces thèmes-là, en fait, ils n'ont rien de formidablement originaux. Ce qui fait l'originalité, je trouve, c'est effectivement le fait de les mettre tous ensemble. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'effectivement, c'est que tout ça fonctionne ensemble, effectivement, de manière un peu systémique. Alors, je saute un petit peu à la conclusion pour essayer de dire ce qui m'a paru, moi, le plus convaincant dans ce livre-là. Je l'ai dit là au début, c'est qu'effectivement, si on... C'est toutes ces thématiques-là, on va les retrouver dans toutes les formes de nationalisme assumé, dur, je dirais, que ce soit effectivement dans la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, la Hongrie d'Orban, les États-Unis de Trump, dans les discours de Marine Le Pen, etc., etc. Donc évidemment, on va les retrouver à des degrés divers. Voilà. Ce qui me paraît particulièrement convaincant, et c'est ça, je pense qu'il y a d'original dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il pense le fascisme non pas comme un régime, je dirais, politique, mais plutôt comme une forme de stratégie politique.
Qui passe par le langage, notamment.
Alors, notamment.
C'est peut-être là-dessus aussi qu'il insiste.
Notamment, mais surtout cet aspect stratégique-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des chapitres du livre, là, hein, chapitre 4, je crois, quand il parle de l'irréalité, en fait, il dit deux idées fortes du livre, hein, il me semble, c'est que, en fait, ce qu'on sous-estime, c'est le fait que, en fait, les analyses que font, en fait, ces gouvernements, ces partis ou ces mouvements politiques, ne sont pas des descriptions de la réalité. C'est-à-dire qu'ils se fichent éperdument de décrire une réalité qui serait là. Il faut les comprendre comme des mots d'ordre. Voilà, ce sont des mots d'ordre, et des mots d'ordre qui peuvent devenir autoréalisants. Hein, l'exemple qu'il prend, alors bon, évidemment, il y a son histoire familiale aussi derrière, hein, c'est que de là qu'il part, et c'est de là où il arrive. Sa grand-mère, en fait, juive allemande, vivant à Berlin, est restée à Berlin jusqu'en 1939. Elle est intervenue de manière clandestine dans les premiers camps de concentration nazis. Et surtout, cette grand-mère, elle a eu le mérite de tenir un journal, en fait, hein, de ces années-là, qui démarre un peu avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et qui va effectivement s'étendre et décrire la vie de la communauté juive berlinoise jusqu'en 1939. Et le point important, c'est une des remarques qu'elle fait, effectivement, c'est que, évidemment, elle considère, notamment au niveau des pays frontaliers, des alliés, effectivement, de l'Allemagne, que probablement personne n'était prêt à considérer les Juifs comme une espèce de population parasite, appauvrie, mendiante, désocialisée, telle que Hitler les présente depuis Mein Kampf, et puis à partir du moment où il arrive au pouvoir, en 1933.
Donc ça, c'est dans le livre de sa grand-mère.
C'est dans le livre de sa grand-mère.
Qui contredit un peu les hypothèses historiques sur le coup de poignard dans le dos, etc.
Oui, mais c'est, encore une fois, son propos n'est pas historien. En fait, le point sur lequel il insiste, c'est le suivant. C'est qu'en fait, il disait que même si, effectivement, la plupart des pays européens n'accordaient aucun crédit ou aucune crédibilité à cette fabrication complètement fantasmée du juif, il faut bien tenir compte du fait que, après les premières mesures politiques d'Hitler, la population juive allemande, réfugiée notamment, correspondait bien à ce que Hitler semblait avoir décrit quelques années plus tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait des gens ruinés, mendiant dans les rues, chassés de leur pays, privés de leur profession, ne parlant pas forcément la langue du pays où ils étaient accueillis, pour ceux qui avaient pu partir, bien évidemment. Et en fait, il dit que c'est un premier déplacement qu'il faut faire, comprendre effectivement les analyses, ce qui se présente comme des analyses ou des descriptions ou des dénonciations de la situation présente chez les fascistes, en fait, doit toujours être compris comme un mot d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui se passera si, en fait, leur politique est appliquée. Donc, c'est un rapport, effectivement, au discours qui est complètement différent. De la même manière qu'effectivement, il insiste sur le fait que toutes les analyses, ça, c'est deux idées, effectivement, qui me paraissent en continu, hein, dans tous ces chapitres. De la même manière qu'il ne faut jamais prendre, effectivement, les discours de ces partis fascistes ou de ces gouvernants fascisants comme des descriptions de la réalité objective. Ce n'est pas ça, en fait, l'enjeu. Il s'agit en fait d'avoir des mots en fait qui suscitent des émotions, en particulier la peur et la colère, parce que la peur et la colère, en fait, c'est les composants de la haine. Et une fois effectivement que ces émotions sont majoritaires, une fois qu'elles sont au pouvoir, alors les mesures politiques transforment la réalité et créer la réalité qui était dénoncée auparavant.
Donc il y aurait une érosion de la vérité, de la rationalité qui passerait par le langage.
Ça, c'est clair.
Et qui ensuite donnerait des politiques qui s'adapteraient à cette réalité.
Enfin, qui adapterait la réalité à ces slogans, plus exactement. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une approche effectivement déjà un petit peu en méta, mais en fait, son idée, c'est ça, c'est de se dire que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire effectivement à quelque chose qui relève d'une stratégie politique. Alors, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est une stratégie qui peut connaître différents degrés. C'est-à-dire que c'est pas un régime. Il n'y a pas un moment effectivement, où des caractéristiques qui vont permettre de dire parti unique, fin de la liberté de la presse. Alors, bien sûr que c'est le stade terminal, cette affaire-là. Mais avant ce stade terminal, en fait, il y a toute effectivement une activité politique qui consiste en maniant, justement, en créant un imaginaire, en détruisant un certain rapport effectivement aux mots, au langage, au débat public, qui consiste en fait à disloquer le débat et l'échange d'arguments ou la recherche d'une description partagée en fait de ce qui se passe ou de la réalité. On détruit ça en allant chercher exclusivement et sciemment en fait des émotions, et des émotions pas n'importe lesquelles évidemment, hein. Et ensuite effectivement, une fois que ces émotions ont porté ou suffisent pour porter ces partis-là au pouvoir, là on a une politique qui va aligner la réalité sur, effectivement, ce qui était dénoncé auparavant. Et c'est en ce sens-là, je trouve qu'il y a quelque chose de juste, en fait, dans ce qu'il nous dit, parce que même si on n'arrive pas au stade terminal, effectivement, on peut identifier tout un tas, effectivement, de stratégies qui sont de nature fasciste. Hein, qui sont de nature fasciste à partir du moment où effectivement le rapport aux mots, le rapport au débat public n'est plus celui d'une recherche de la vérité ou même d'une description simplement des faits, mais en fait dans un premier temps effectivement une manière d'aller activer exclusivement un certain type d'émotion, peu importe effectivement que ce qu'on dit soit vrai ou pas, du moment qu'effectivement les émotions sont activées, et ensuite effectivement être en mesure de proposer une politique qui elle va effectivement créer la vérité, pas la vérité mais la réalité, effectivement, qu'on était censé dénoncer précédemment.
Est-ce qu'il évoque donc le changement des institutions qui va avec ou alors, quelque chose qui laisse de côté?
Oui, mais c'est pas ça l'essentiel pour lui. Enfin, c'est pas là-dessus qu'il insiste le plus. Alors, ce qu'il insiste, il y a des passages évidemment où il parle de ça, notamment lorsqu'il traite de l'anti-intellectualisme et en fait de l'obsession que ces différents mouvements politiques qui peuvent être d'ailleurs qui peuvent avoir des idéologies apparemment très différentes.
différentes les unes des autres, mais leur obsession commune, elle passe toujours par la destruction de l'université. Parce qu'il s'agit effectivement de l'université, un des lieux de promotion, c'est pas le seul évidemment, mais c'est un lieu de promotion clé, je dirais, de ce que c'est qu'une connaissance objective. Voilà, et donc d'une description voilà de la société dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, des rapports que cette société entretient avec la nature, etc. Et au fond, il s'agit de faire sauter l'université, mais qui est pas pensée comme un ennemi, parce qu'elle est pensée comme un verrou à la stratégie dont je parlais. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on se soucie des faits, tant qu'on cherche effectivement à décrire ce qui se passe, tant qu'on cherche à accéder à une vérité objective, voilà, sur les phénomènes sociaux, sur l'histoire d'un pays, sur etc. Tant qu'on cherche effectivement à accéder à une vérité, eh bien effectivement, ça bloque cette stratégie fasciste, hein, qui consiste effectivement à substituer du sentiment ou de l'émotion à la recherche de la vérité, et qui empêche effectivement d'accéder aux commandes qui vont permettre de créer cet ennemi intérieur qui n'existait pas lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ou qui n'existait pas comme ils le décrivaient. Et voilà, effectivement, on a quelque chose qui s'auto-alimente. Donc on est, en fait, c'est une, voilà, d'une certaine manière, c'est un peu abstrait de le dire comme ça, mais c'est la façon dont il analyse le fascisme permet de le penser, cette pensée politique-là comme une réduction de la politique à de la stratégie. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus effectivement la recherche de mettre en place certaines valeurs ou de régler un certain nombre de problèmes objectifs en s'appuyant justement sur certaines valeurs. C'est plus ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est d'arriver effectivement à être en mesure de créer la réalité qu'on dénonce. Voilà.
Et donc pour Sané, là, dans l'université joue un rôle fondamental en fait de lutte. Peut-être qu'il en parle un peu de comment lutter contre cette transformation de la réalité.
Alors c'est pas un bouquin. Pour le coup, c'est pas une contre-stratégie. Ça, c'est peut-être. Le bouquin fait 180 pages, donc c'est pas non plus une recette magique. Hein.
Mais on peut supposer du coup que l'université jouerait un rôle fondamental. En tout cas,
qu'il est fondamental de la défendre, oui, et de défendre effectivement les libertés académiques. Ça c'est très clair. Hein. Il prend un exemple de ça, peut-être on termine avant une première pause, je vais juste lire ce point-là, sur effectivement un exemple qui est tiré de l'histoire américaine et notamment du mandat de Trump. Hein. Donc là, je cite, c'est page 70 du bouquin. Il dit aux États-Unis, dans son émission à succès, l'animateur radio d'extrême droite Rush Limbaugh a dénoncé, je cite, les quatre piliers du mensonge, le gouvernement, le monde universitaire, la science et les médias. Ces institutions sont désormais corrompues et se nourrissent du mensonge. C'est ainsi qu'elles se propagent, c'est ainsi qu'elles prospèrent, hein, déclare-t-il. Et il poursuit un peu plus loin en disant, voilà, les dirigeants fascistes sont toujours au contraire des hommes d'action, entre guillemets, qui n'ont que faire de s'informer ou de délibérer. Et il dit que c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. Il dit dans un essai de 1941 intitulé « Renaissance de l'homme européen », le fasciste français Pierre Drieu-La Rochelle écrit « C'est un type d'homme qui rejette la culture, c'est un homme qui ne croit pas aux idées et donc pas aux doctrines, c'est un homme qui ne croit que dans les actes et qui enchaîne ses actes selon un mythe très sommaire ». Et attention, hein, quand Drieu-La Rochelle écrit ça, c'est pas une critique, hein, c'est un mot d'ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, il appelle de ses voeux la prise du pouvoir et l'avènement de cet homme-là, hein, c'est-à-dire de cet homme d'action. Donc c'est une stratégie effectivement de destruction et de prise du pouvoir par la destruction de toutes les formes d'institutions qui peuvent contribuer à la recherche effectivement d'une vérité objective, ça c'est pour l'université, mais qui peuvent aussi tout simplement avoir vocation à entretenir un débat public, un échange d'arguments ou un échange d'idées, tout ce qui fait effectivement le socle, pas simplement institutionnel, je dirais culturel, hein, d'un régime démocratique.
D'accord. Donc on fait une première pause musicale. Yeah. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, c'est Jeudi Noir, avec Jean Mathias qui nous présente un livre de Jason Stanley, Les ressorts du fascisme, publié aux éditions Elliott. Et donc, on a commencé cette première partie sur l'analyse des différents ressorts du fascisme, notamment le rapport aux institutions, au langage. Et peut-être que Jean-Mathias pourra nous redire un peu les grands mécanismes en fait, qui permettent justement aux, qui sont en fait les ressorts du fascisme, qui permettent au fascisme de s'installer.
Alors, comme je disais dans la première partie de l'émission, donc ce que développe Jason Stanley dans ce livre-là, Les ressorts du fascisme, c'est en fait un certain nombre de thèmes qui donnent une cohérence à toutes les stratégies développées par des partis qui peuvent avoir des idéologies apparemment très différentes. Hein, encore une fois, le parti d'Erdogan, c'est pas Russie unie de Poutine, c'est certainement pas non plus le parti républicain américain, c'est pas le Front national, enfin le Rassemblement national français. Mais en fait, ils partagent tous quelque chose en commun, c'est effectivement une même stratégie et une même stratégie, je dirais, thématique. Alors effectivement, j'ai cité effectivement au début les différents aspects, en fait, hein, les différents thèmes qui sont mis comme ça en système dans ces différents mouvements politiques. Le rapport au passé, hein, c'est-à-dire l'entreprise de substituer à une recherche historique qui chercherait à atteindre une forme de vérité objective sur l'histoire d'un pays, de substituer à ça un passé entièrement mythifié. Le rapport à la propagande, l'anti-intellectualisme, l'irréalité, la hiérarchie, l'attitude victimaire, les rapports à la loi et à l'ordre, notamment par la définition systématique d'une forme d'ennemi intérieur, hein, qui va être criminalisé et contre lequel, du coup, il va falloir rétablir effectivement la loi et l'ordre. Huitième thème, la question de l'anxiété sexuelle, et notamment la mise en question des identités sexuelles traditionnelles. La critique des milieux urbains, qui est une constante, effectivement, à des degrés divers chez ces différents partis, et une conception du travail comme, effectivement, une espèce de travail individuel qui refuse toute forme d'affrontement de classe, hein, ou de lutte de classe au sein de la nation, évidemment, et qui vise également à renforcer, hein, la stigmatisation d'un ennemi intérieur perçu comme un parasite oisif de manière à peu près systématique. Alors, je peux peut-être citer lire quelques passages du livre, là, pour donner une idée un peu des analyses qu'il propose. Alors, premier exemple, peut-être, sur la question du passé et du rapport à l'histoire. Alors, c'est des thèmes qu'on a déjà abordés nombreuses fois ici dans cette émission-là. Encore une fois, je trouve qu'un des livres, un des mérites de ce livre-là, Les ressorts du fascisme de Stanley, c'est de mettre sur la table l'ensemble des pièces du puzzle, hein, qu'on peut aborder parfois de manière séparée les unes des autres. Et là, effectivement, il y a une vision assez panoramique, hein, de ces thèmes-là. Alors, sur le rapport au passé, hein, c'est dans le premier chapitre, page 42, là, il explique qu'effectivement, dans une démocratie libérale, l'histoire doit finalement se régler sur une norme de vérité et donner du passé une vision exacte et non pas devenir un récit façonné par des intérêts politiques. Au contraire, dit Stanley, la politique fasciste n'a d'autre choix que de mythifier le passé afin de pouvoir se positionner sur le terrain politique en gardienne d'une histoire patrimoniale. Pour bien comprendre le danger que nous font encourir les personnalités politiques lorsqu'elles tentent d'effacer les épisodes les plus dramatiques de l'histoire, il vaut la peine de jeter un œil aux travaux des psychologues sur la mémoire collective. Alors ça, c'est aussi des outils qu'il utilise assez régulièrement pour expliquer, voilà, c'est pas psychologisant le livre, si tu veux, mais par contre, il utilise effectivement certains résultats d'expériences psychologiques pour justifier son propos, quoi. Donc là, en l'occurrence, il va nous citer les travaux de Cathy Rotella et Jennifer Richardson, donc ça date de 2008, et nous explique qu'elles ont mené une étude au cours de laquelle elles présentaient à des personnes volontaires, toutes américaines, des histoires ayant pour thème l'oppression et la violence subies par les Amérindiens. Ces histoires étaient formulées de deux manières différentes. Alors, il cite, hein, l'expérience. Plus précisément, les auteurs des violences étaient décrits soit comme des Américains, qui était en fait la condition du groupe d'appartenance auprès de qui l'expérience était faite, soit comme des Européens ayant migré vers ce qui est devenu par la suite l'Amérique. Hein, ce qui a été fait donc des émigrés de l'exogroupe, on va dire. Or, cette étude a montré que les gens sont plus susceptibles d'une forme d'amnésie à l'égard des crimes évoqués lorsque les responsables sont désignés comme des compatriotes. Autrement dit, lorsqu'on présente les auteurs des violences comme des Américains, plutôt que comme des Européens ayant migré en Amérique, les participants à l'étude eux-mêmes américains se souvenaient nettement moins bien des événements historiques négatifs. En revanche, lorsque leurs souvenirs concernaient des membres de leur propre groupe, les participants avaient tendance à ne pas faire grand cas des violences commises. Les études de Rotella et Richeson mentionnent un ensemble de travaux antérieurs ayant abouti à des résultats similaires. On peut donc en conclure que nous avons une tendance très nette à oublier et à minorer les crimes commis dans le passé lorsque les auteurs sont des membres de notre groupe. Ainsi, même si les responsables politiques ne font rien pour les pousser dans ce sens, les Américains ne prendront de toute façon pas réellement au sérieux l'histoire de l'esclavage et du génocide des Amérindiens. Les Polonais négligeront l'histoire de l'antisémitisme et les citoyens turcs seront enclins à nier les atrocités commises par le passé contre les Arméniens. Lorsque des personnalités politiques utilisent ce biais comme un ressort de leur politique éducative, ils ne font donc que jeter de l'huile sur le feu. Alors, c'est ici... Alors, il me semble que ce qu'il y a d'intéressant dans sa méthode, si tu veux, c'est que c'est une manière... Alors, la psychologie des biais cognitifs, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et... alors, on peut, voilà, ça peut avoir aussi ses limites parce que ça individualise les comportements, ça les naturalise en partie, etc. Après, il me semble que ce que ça peut avoir d'intéressant, c'est quand ça ressemble quand même, si tu veux, à une espèce de réactualisation de méthodes qui ont été utilisées par les fascistes dans les années 30. Hein, dans les années 30, les textes de référence, c'est la psychologie des foules de Le Bon. Et là, effectivement, on a autre chose. Hein, on a des outils, effectivement, ou des types d'expérimentation avec des résultats qui vont expliquer, en fait, le succès et sur quoi on table.
Oui, c'est ça. Donc, hein. Lui, qu'est-ce qu'il en fait, ça? En fait, ces oublis de mémoire, peut-être, il part du principe que le régime en place va pouvoir s'appuyer dessus pour inventer une autre réalité, ou est-ce qu'il explique que c'est peut-être un prérequis en fait au succès du régime en lui-même?
C'est ça. Hein, c'est ça ne part pas de rien. C'est-à-dire, ça ne part pas de rien, et les succès que tu peux avoir, en développant une vision révisionniste de l'histoire. Une forme de cancel culture fasciste, on va dire, parce que évidemment on parle toujours de la cancel culture, à droite on dénonce une obsession pour effacer les traces les plus gênantes du passé, etc. Mais les premiers, évidemment, les champions de la cancel culture, ce sont avant tout les fascistes eux-mêmes. Dans la mesure où, effectivement, il s'agit d'effacer des traces objectives, il s'agit effectivement de maintenir sous le tapis, etc. Et tout ça s'appuie, effectivement, en tout cas sur Stanley, sur un soubassement, en fait, qui existe déjà, effectivement, qui est propre à la psychologie humaine, au moins si on en suit l'analyse des biais cognitifs. Il y a un autre exemple là-dessus, hein, par exemple, sur l'abolition de l'esclavage. C'est un truc qui est relativement moins connu. Hein. Il rappelle qu'effectivement, aux États-Unis, l'histoire du Sud a toujours fait l'objet d'une vaste mystification. Alors, c'est dans la suite du texte, hein, toujours dans page 44. A toujours fait l'objet d'une vaste mystification afin d'effacer la mémoire de l'esclavage et de justifier le refus d'accorder le droit de vote aux citoyens américains noirs pendant encore près d'un siècle après son abolition. Pour rendre ce refus acceptable, on a propagé une histoire mensongère de la reconstruction, avec un R majuscule. Durant cette période qui suivit immédiatement la guerre civile de 1865, les hommes noirs des États du Sud disposèrent du droit de vote. Dans certains de ces États, comme la Caroline du Sud, les personnes noires constituaient alors la majorité de la population. Pendant une douzaine d'années, les représentants noirs, 12 ans après 65, hein, 1865, les représentants noirs purent donc faire entendre avec force leur voix dans de nombreuses législatures d'État, et certains occupèrent même des sièges au Congrès des États-Unis. Cette reconstruction, hein, c'est le nom qu'on a donné à la période, prit fin lorsque les Blancs du Sud promulguèrent des lois qui eurent pour effet pratique de priver les citoyens noirs du droit de vote. Pour y parvenir, les Blancs du Sud propagèrent le mythe selon lequel les citoyens noirs étaient incapables de se gouverner eux-mêmes. Selon l'histoire officielle de l'époque, la reconstruction était présentée comme une période de corruption politique sans précédent, la stabilité ne pouvant être établie que lorsque les Blancs auraient à nouveau les pleins pouvoirs. Il faut quand même mesurer ce que ça représente, si tu veux, historiquement, un événement comme ça. C'est-à-dire que tu as 12 ans après l'abolition de l'esclavage, pendant lesquels tu as un accès au droit de vote de la part pour les Afro-Américains, et réussir à effacer une période de 12 ans de cet ordre-là, c'est quand même pas rien, quoi, en quelque sorte. Hein. Et à maintenir, si tu veux, une espèce de la ségrégation de fait et de droit pendant près d'un siècle derrière. Hein. Et ça, c'est typiquement... Alors, Ça peut être une des limites qu'on peut faire à ce livre-là de Stanley, hein, sur les ressorts du fascisme, et de dire, bah, du coup, ça veut dire quoi que les États-Unis, là, c'est un pays fasciste, parce qu'effectivement... Et Stanley répond oui. D'une certaine manière, c'est fasciste au sens où effectivement cette stratégie de reconstruction mythologique et révisionniste en fait de la mémoire, c'est une stratégie fasciste, oui. Même si le régime, t'as pas de parti unique, t'as pas effectivement de chemise brune dans la rue, mais la stratégie est de nature fasciste.
Ouais. Ok, donc pour lui, le fascisme, c'est avant tout une stratégie. C'est qui joue sur le discours et donc sur la mémoire.
Entre autres, parce qu'effectivement, il y a d'autres thèmes qui sont abordés. Mais oui, cet aspect stratégique, il me semble que c'est ça qui permet de comprendre le propos du livre, si tu veux. C'est pas la description d'un régime, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'analyse économique ou sociologique sur effectivement les causes qui peuvent t'amener à un régime. Et voilà, et tant que le régime n'est pas là, ben en fait, t'y es pas encore. Non, c'est une analyse effectivement,
dynamique un petit peu.
Le fascisme est une stratégie politique. Voilà, c'est une stratégie politique. Alors effectivement, quand tu arrives au stade terminal, il y a les chemises brunes dans la rue, il n'y a plus qu'un seul parti et les camps sont ouverts et fonctionnent à plein régime. Ok. Non. Mais la stratégie elle-même, effectivement, elle peut se développer de bien avant le stade terminal et ne pas forcément d'ailleurs viser forcément ce stade terminal-là.
Et je serais curieuse de savoir, parce que ça c'est peut-être un peu quelque chose qui n'est pas très développé dans les analyses classiques, le rôle de l'anxiété sexuelle chez Stanley en fait, quel rôle ça joue dans la stratégie fasciste.
On peut en parler notamment parce que ça, c'est pas sans lien avec ce que je viens de dire sur le rapport au passé, parce qu'en fait ce que Stanley montre, c'est qu'effectivement une des obsessions de cette stratégie-là, c'est une vision hiérarchique de la nation, et une vision hiérarchique qui est basée effectivement sur une représentation patriarcale de la famille, bien entendu, mais aussi évidemment des identités sexuelles qui vont avec. Et l'anxiété sexuelle, en fait, dont il parle, c'est pas n'importe quel type d'anxiété. En fait, c'est évidemment l'anxiété ressentie par toutes les formes de remise en question de cette fantasmatique patriarcale là. Avec des analyses qui peuvent être du coup assez justes, je trouve. Alors, par exemple, c'est des questions qu'on a déjà abordées ici, et puis c'est des questions qui sont évidemment qui traversent les discussions, mais la manière dont l'importance qu'il accorde, par exemple, à la question de la transphobie, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce que l'analyse qu'il fait, c'est que c'est tout sauf un détail, si tu veux, cette affaire de transphobie systématique, justement, dans ces différents mouvements politiques-là, parce que évidemment, la transsexualité, c'est la remise en question directe, frontale, si tu veux, des identités de genre. Et évidemment, derrière ça, c'est du coup ça te rend le patriarcat incompréhensible, si tu veux. Et donc, c'est évidemment une cible qui n'est pas une cible anecdotique. C'est un objectif stratégique, en fait, pour la politique fasciste. Alors, c'est comme ça, je cite, c'est plus loin dans le texte. Je peux citer aussi, là, donc page 142, par exemple. Il nous dit, alors voilà, les attaques rhétoriques contre les femmes transgenres en sont devenues à occuper une place centrale dans le débat politique aux États-Unis. Étant donné l'importance de la hiérarchie des sexes pour l'idéologie fasciste, il n'est pas surprenant que certains hommes politiques aient tenté d'alimenter l'hystérie collective à leur égard. Cet effort doit en effet être compris comme une des manifestations de la politique fasciste et comme un symptôme de son essor actuel. A l'inverse, l'acceptation croissante des femmes transgenres représente une puissante affirmation des normes démocratiques libérales, nous dit-il. Souvenez-vous du rôle essentiel que joue le modèle de la famille patriarcale dans le fascisme. Le leader fasciste, c'est l'analogue du patriarche. Il est le chef de la famille traditionnelle. Le rôle du père dans la famille patriarcale est de protéger la mère et les enfants. Attaquer les femmes trans et assimiler l'autre tant redouté à une menace pour la virilité de la nation sont des façons de donner une place centrale à l'idée même de virilité dans la vie politique et de faire progressivement pénétrer dans la sphère publique des idéaux fascistes de hiérarchie et de domination fondée sur la force. Alors, en soi, encore une fois, c'est pas forcément, tu vois, c'était... On sent effectivement, c'est pas forcément ultra original, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'importance effectivement que va prendre hein, ce type de front, je dirais, lorsqu'on a voilà l'ensemble du puzzle. Hein, effectivement,
oui, et puis la place dans la stratégie, mine de rien.
Exactement.
En fait, parce que on décrit souvent comme bah voilà, c'est très normé, c'est très hiérarchisé, mais là,
oui.
Le fait de stigmatiser en fait un groupe de déviants, notamment sexuels, en fait, ce serait ça,
oui.
Permet en fait à l'utilité de réaffirmer une forme de hiérarchie.
De hiérarchie patriarcale.
Et peut-être de créer un sentiment d'unité aussi autour.
Bien entendu.
De ces questions.
C'est-à-dire que le point, si tu veux, c'est que ces différents thèmes, ils se renforcent mutuellement toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours la même représentation du monde, mais qui va se décliner effectivement, hein, et dans différents domaines. C'est une vision du monde qui est globale. Elle est globale, si tu veux. Donc, elle s'intéresse effectivement à tous les aspects de la vie, qu'elle soit privée ou publique. Elle fait sauter ces frontières-là. Et c'est une approche globale, délibérée, et qui, du coup, va effectivement se développer dans des fronts qui, apparemment, n'ont pas grand-chose à voir entre eux, si tu veux. Voilà, la transphobie, l'attaque des départements universitaires ou des libertés académiques dans la recherche en histoire ou en sciences sociales ou ailleurs, c'est pas forcément directement lié. Si tu veux, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne vont pas le voir, ce lien-là, forcément. Tu es dans un département, je sais pas... Alors bon, il y a des départements de sociologie où effectivement on fait sociologie du genre, bien sûr, mais en fait il y a plein d'autres départements où il n'est pas du tout question de ça. Et donc tu peux avoir effectivement le sentiment que bon bah effectivement il y a peut-être des départements un petit peu exotiques, etc. Mais que après tout, voilà, une recherche sociologique. Ouais ben non, en fait c'est plus compliqué que ça cette affaire-là. C'est-à-dire que voilà, ce qui est visé au fond, c'est l'idée même en fait d'avoir un débat argumenté, une recherche de vérité objective, notamment sur ces questions-là, hein, et en particulier sur ces questions-là. Alors, voilà, la cohérence qui trace et les liens qui tracent entre ces différents... thèmes, effectivement, ça, c'est finalement un des points forts. Alors, l'irréalité, pareil. Alors, bon, voilà, c'est une émission qui est évidemment officiellement réaliste et rationaliste ici, mais donc c'est pas nouveau non plus. Voilà, Michel a fait une galipette dans le studio, là, faut quand même le dire, voilà, pour rappeler notre ligne. Voilà. Chapitre irréalité, il commence comme ça. Lorsque la propagande réussit à retourner nos idéaux contre eux-mêmes, lorsque l'université est décrite comme une institution partisane et vouée aux hégémonies, c'est la réalité elle-même qui est mise en cause. Nous ne pouvons même plus nous accorder sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux. La politique fasciste vise à remplacer le débat rationnel par la peur et la colère. Lorsqu'elle y parvient, elle laisse son auditoire sans repère, dans un état de sidération, ce qui alimente la méfiance et le ressentiment à l'égard de ceux qui sont perçus comme responsables de cette situation. Alors, là encore, c'est pas une idée qui est fondamentalement nouvelle, mais il prend des exemples. Alors, sur ce rapport, sur ce déni de réalité, effectivement, comme stratégie, hein, y a évidemment l'exemple, le précédent des années 30, c'est le protocole des sages de Sion. Hein, qui est effectivement qui a un discours complètement fictif, inventé, calomniant, et qui a été diffusé à des millions d'exemplaires, hein, y compris aux États-Unis. Et il cite un autre exemple. Alors, on n'a pas trop parlé à ma connaissance en France. Je cite juste l'exemple et on fera une petite pause après. C'est lors de la première campagne de Trump. C'est l'affaire du Pizzagate. Alors moi, j'avoue que j'avais pas été effectivement, j'avais pas eu connaissance de cet épisode-là. Alors
qu'est-ce que c'est que
vous le livre. Alors page 77, la période de l'élection présidentielle américaine sur la question du déni de réalité, hein, de 2016 fut marquée par une prolifération des théories du complot. Parmi les cibles visées se trouvaient notamment Hillary Clinton, la candidate démocrate, les musulmans et les demandeurs d'asile. Dans ce contexte, la palme de la théorie la plus bizarre revient sans doute au Pizzagate. Selon ses partisans de cette théorie, une fuite aurait permis de découvrir dans les emails de John Podesta, alors directeur de campagne de Clinton, des messages codés qui révélaient l'existence d'un trafic de jeunes enfants organisé depuis une pizzeria située à Washington, dans le but de satisfaire les besoins sexuels d'élus démocrates siégeant au Congrès. Cette théorie a circulé sur les réseaux sociaux et a rencontré, compte tenu de son étrangeté, un écho étonnant. Bien qu'il ne s'agisse que d'une théorie du complot parmi d'autres, ayant visé Clinton et les démocrates, elle eut un retentissement considérable au niveau national, non seulement en raison de son extrême bizarrerie, mais aussi parce qu'Edgar Madison Welch, un homme originaire de Caroline du Nord, s'était effectivement présenté, arme au poing, à la pizzeria, dans le but de confondre les propriétaires et de libérer les prétendus esclaves sexuels. L'objectif de cette théorie du complot était d'associer ses cibles, les démocrates, à des actes de dépravation extrême. Et il ajoute cette idée-là, c'est que, je termine juste sur ce point-là avant la pause, c'est que il faut bien comprendre ce que représente l'usage d'une théorie du complot dans une stratégie comme celle-là. Il ne s'agit pas réellement de convaincre les gens. C'est un effet, en fait, indirect et secondaire qui est visé. Il poursuit son analyse, il fait, comme le fait remarquer Winch, un politiste américain, si on est persuadé qu'une pizzeria de Washington organise un trafic d'enfants pour en faire les esclaves sexuels de représentants démocrates au Congrès, alors il est parfaitement rationnel d'agir comme l'a fait le type, là, Edgar Madison Welch. Et pourtant, l'intervention de Welch, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais qui est importante, elle a été fermement condamnée par ceux-là même qui ont propagé la théorie du Pizzagate. Selon Lynch, ça signifie que cette théorie n'était pas censée être traitée comme une assertion ordinaire. La fonction des théories du complot, c'est bien d'attaquer et de calomnier leurs cibles, mais pas nécessairement en convainquant leurs partisans qu'elles sont vraies. Dans le cas du Pizzagate, la théorie du complot n'était pas censée aller au-delà de l'insinuation et de la calomnie.
Donc l'idée finale, c'est quoi ? C'est de fragiliser un peu l'idée de rationalité
Alors oui, ça c'est quand tu le dis de manière abstraite, mais de manière concrète, l'idée c'est d'être prêt à raconter à peu près n'importe quoi du moment que l'effet est atteint. C'est-à-dire du moment que la cible ou que celui qui est identifié comme ennemi est jeté en pâture, dévalorisé, etc. Donc c'est-à-dire que c'est pas un usage du langage où on cherche à démontrer des choses ou à asserter des choses, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire à décrire une situation. Il s'agit de salir. Il s'agit de salir, et d'une certaine manière, là où effectivement je trouve que c'est assez fin son analyse, c'est que les théories du complot doivent être comprises comme ça. Et d'une certaine manière, la plupart du temps, elles sont comprises comme ça. À la limite, le mec qui arrive avec son gun dans la pizzeria, ben, en fait, c'est une anomalie, ce gars-là. Mmh. C'est-à-dire que les partisans d'une théorie du complot, dans ce cas-là, dans cette optique-là, c'est des gens qui au fond, n'y croient pas. Hein. Mais du moment, effectivement, que ça permet de désinguer ou de vomir, effectivement, sur ceux qu'on veut chasser, hein, on prend. Voilà.
Donc quelque part, la répétition de ce qu'on verrait aujourd'hui comme les fake news, etc., serait aussi un indice peut-être
ah oui,
de cette
sûr.
Stratégie,
c'est
une stratégie fasciste en fait.
Oui, oui, oui.
L'installation d'un certain relativisme.
On fait une deuxième, peut-être une deuxième pause musicale.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend avec Jean Mathias qui nous présente un livre de Jason Stanley, Les ressorts du fascisme.
Aux éditions Elliott.
Aux éditions Elliott, publié en 2020.
Absolument.
sous le premier mandat de Donald Trump. Et donc qui nous rappelle, qui analyse en fait la dynamique de l'installation d'une stratégie fasciste. Cette dynamique qui passe notamment par la création, enfin le renforcement de l'idée d'une certaine hiérarchie.
Ouais.
Qui se base donc sur quel mécanisme.
Oui, alors c'est sur le c'est évidemment en cohérence avec ce qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire ça va avec les conceptions patriarcales, ça va avec les conceptions mythologiques du passé, ça va avec la destruction de la réalité et toute forme d'autorité qui s'appuierait sur la recherche de la vérité objective. Et la hiérarchie en soi, effectivement, est un des objectifs fondamentaux de toute stratégie fasciste. C'est ce qui nous... Voilà, il termine effectivement le chapitre sur l'irréalité, là il y a un lien direct, hein, il explique, voilà, lorsque les inégalités matérielles, alors c'est le seul élément d'analyse qui donne d'ailleurs un peu économiste, si tu veux, hein, c'est qu'au fond, effectivement, le fait de pouvoir discuter d'une réalité commune, ça suppose en fait d'avoir des conditions ou des expériences qui soient relativement comparables. Et quand effectivement tu te retrouves dans des sociétés avec des inégalités de richesse comme celles qu'on connaît aujourd'hui, et ben effectivement, c'est l'idée même d'expérience commune, en fait, si tu veux, du monde qui perd en crédibilité. C'est pas qu'elle perd en réalité, la réalité est toujours ce qu'elle est. Mais effectivement, cette idée qu'il y aurait un monde commun, une réalité commune, devient de moins en moins crédible. C'est comme ça qu'effectivement qu'il résume les choses. Lorsque les inégalités matérielles atteignent un niveau dramatique, le recours au mythe permet de rejeter la norme habituelle du débat public, à savoir la réalité elle-même. Pour détruire complètement cette référence commune, la politique fasciste remplace l'idéal d'égalité qui est au cœur des démocraties libérales par son exact opposé, à savoir la hiérarchie. Alors, bon, c'est pareil, évidemment, le fait de dire que les mouvements fascistes cultivent voilà, un culte de la hiérarchie, c'est, en soi, c'est pas révolutionnaire, si tu veux. Mais par contre, le fait de lier, effectivement, à la destruction de toute forme d'expérience commune, enfin, comme norme, hein, voilà, de la discussion, ça, effectivement, c'est plus intéressant.
Et est-ce que Stanley parle d'une forme de polarisation, justement, s'il y a une polarisation à travers les inégalités qui se creusent, en fait, est-ce qu'il parle d'une polarisation des discours ou des visions du monde, ou est-ce que c'est quelque chose
qui analyse pas? Les deux, hein. Alors, c'est pareil, c'est aussi l'autre point important, là, c'est un aspect, voilà, je dis, il y a très peu d'analyse économique, si ce n'est, tu vois, des formules de ce type-là. Donc, c'est vraiment un politiste qui travaille sur l'idéologie en tant que tel. Il y a peu d'analyse historique aussi, alors on pourrait peut-être effectivement lui reprocher, mais en même temps, ça lui permet, il me semble, de traiter, voilà, des liens qui ont leur intérêt.
Ou en faire une analyse complémentaire à d'autres qu'on connaît déjà.
Exactement. Et il y a un autre passage, effectivement, où il va mentionner... espèce d'analyse contextuelle de nature historique, c'est en fait, il souligne le lien qu'il y a entre le succès de ces mouvements fascistes et les empires en déclin. Les empires en déclin, alors je cite ce passage-là, toujours dans le... Voilà, cette analyse, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut sentir intuitivement ou qu'on peut se formuler, voilà, mais le lien en fait établi entre tout ça est vraiment intéressant, il me semble. Page 103, hein, il cite un article qui s'appelle « Why Now? It's the Empire Stupid », paru en juin 2016 dans The Nation, donc au moment de l'élection de Trump. Et il montre que dans cet article, donc pourquoi maintenant, bah c'est à cause de l'Empire, imbécile, l'historien Greg Grandin de l'Université de New York soutient que c'est le contexte du déclin de l'Empire américain qui a rendu possible la victoire de Donald Trump. Après la fin de la guerre froide, une fois devenue la dernière superpuissance, les États-Unis régnèrent en véritable maître du monde. En leur donnant le sentiment de leur propre supériorité, un empire fait naître chez ses citoyens un mythe réconfortant, puisqu'il leur voile les véritables problèmes sociaux et structurels qui, s'ils étaient perçus, entraîneraient de graves difficultés politiques. Au moment de son déclin, les citoyens d'un empire autrefois puissant doivent affronter la réalité et reconnaître que leur caractère exceptionnel n'était qu'un mythe. Grandin écrit qu'à partir de 2008, hein, la fameuse crise, c'est-à-dire à peu près au moment où Barack Obama remporta l'élection présidentielle, la soupape de sécurité de l'Empire américain s'est grippée, rendue inopérante par la guerre catastrophique en Irak et la crise financière de 2008. Parce qu'Obama est arrivé au pouvoir sur les ruines du néolibéralisme et du néoconservatisme, l'Empire n'était plus capable d'apaiser les tensions, de satisfaire les intérêts et d'unifier les divisions. Et la conclusion qu'il en tire, c'est que lorsque la hiérarchie impériale s'effondre et que la réalité sociale est mise à nu, le sentiment hiérarchique qui anime le pays tend à opérer comme un moyen de préserver l'illusion familière et réconfortante de la supériorité.
Le fameux « Make America Great Again ».«
Great Again », exactement. Mais tu trouverais exactement la même chose en Turquie, qui est un ancien empire, voilà, en déclin depuis bien longtemps, en Russie, qui est un ancien empire depuis bien longtemps, en France, qui est un ancien empire depuis bien longtemps, etc. etc. Donc, alors, c'est pareil, c'est une espèce de psychologie collective qui peut paraître un peu rapide, mais il me semble qu'effectivement, c'est difficile à contester, en fait, ces liens-là, avec, encore une fois, l'importance du ressort imaginaire collectif qui va avec, hein, sur la hiérarchie perçue comme une espèce d'entreprise de restauration, hein, de ce mythe rassurant d'une supériorité du groupe, de la nation à laquelle on appartient, effectivement, sur les autres. Et donc, pour ça, il faut de l'ennemi intérieur, il faut du bouc émissaire, il faut etc.
Donc, bien sûr. Ça se base sur la création d'une hiérarchie à la fois national à l'intérieur du pays, mais aussi international qui s'appuie sur un passé glorieux de l'Empire.
La preuve, l'espace vital allemand en 1930, la mission civilisatrice de la France après sa chute, après sa défaite contre la Prusse en 1871, etc. Hein, Mussolini. Alors après, ça se traduit pas forcément par des conquêtes impériales de la colonisation. Enfin, là, en l'occurrence, on a des beaux exemples. Hein. C'est malheureusement peut-être pas fini. Hein, et le point important, là, effectivement, c'est la fonction que va jouer effectivement cet idéal hiérarchique dans ce contexte-là. Et hiérarchique est toujours présenté comme effectivement le stade d'organisation naturelle des sociétés. Ça aussi, évidemment, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'il s'agisse effectivement du patriarcat, du virilisme qui va avec, des hiérarchies sociales. Tout cela est toujours présenté effectivement comme le mouvement et la destinée naturelle des sociétés humaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui entrave ça, c'est-à-dire les idéaux d'égalité, de débat argumenté, de recherche de vérité objective, tout ce qui fait en fait le socle culturel de la démocratie et de la démocratie libérale en particulier, est conçu comme quelque chose de contre-nature, hein, qu'il s'agit d'abattre par tous les moyens. Hein, et parmi ce socle contre-nature, eh bien, il y a effectivement la rationalité et évidemment les idéaux d'égalité. Ce qui rappelle effectivement au début du chapitre sur la hiérarchie, les écrits fascistes manquent rarement une occasion d'invoquer l'autorité de la nature. Hein, il dit ça, et puis c'est pas d'hier. Le 21 mars 1861, Alexander Stephens, alors vice-président des États confédérés, prononça un discours connu sous le nom de « discours de la pierre angulaire ». Il y dénonce les principes de liberté et d'égalité consacrés par la Constitution américaine comme autant de violations des lois de la nature. « Notre nouveau gouvernement, déclare-t-il, est fondé sur les idées exactement opposées à celles de l'égalité. Ses fondations sont posées, sa pierre angulaire repose sur la vérité indépassable que le nègre n'est pas l'égal de l'homme blanc, que l'esclavage, la subordination à la race supérieure, est sa condition naturelle et normale. » Le président de la République confédérée, enfin des États confédérés. Le discours sur la pierre angulaire expose de façon très concrète, nous dit Stanley, la manière dont la logique fasciste conduit à voir les principes de la démocratie libérale comme des idées contre-nature qu'il faudrait pour cette raison abandonner. Hein? Alors, il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder dans le texte, notamment sur le travail, le dernier chapitre, là j'aurais aimé en parler rapidement, la manière effectivement d'évacuer, justement de penser la lutte des classes comme... une forme d'effacement, voilà, justement, des lois naturelles du père de famille, seul, individuel, qui va créer de la richesse, se lancer dans la compétition et dans la sélection sociale, sans avoir besoin de filer de l'État. Toujours cette constante qu'en fait, que le groupe, c'est pas l'État, c'est la nation, voilà, et que tout ce qui vient de l'État, effectivement, vient parasiter l'espèce de conception organique de la nation, où on a donc des bons pères de famille autoritaires, qui créent de la richesse captée par des parasites bronzés, qui profitent des systèmes sociaux. Voilà, je résume. Mais voilà, tout cela, effectivement, est en cohérence. Hein. Et c'est ça qui va définir, voilà, pour terminer, hein, l'intérêt de ce livre, Les ressorts du fascisme, Jason Stanley, que je conseille vraiment, très, très clair de lecture, très, très accessible, et dans lequel, voilà, se dessine la cohérence de ce qu'on pourrait appeler le fascisme comme stratégie politique.
Hein. Complémentaire à d'autres analyses.
Tout à fait, tout à fait.
Des autres versions.
Ouais, ouais, exactement.
Eh bien, on va conclure comme ça, et puis on va se quitter sur un super morceau de musique des Briggs, qui est pas mal d'actualité. I can't believe this is happening. We can't take three steps back, but that seems to be the case. It's hard to ignore when it's thrown in your face. So you think this is the definition of an American? Where the fuck have you been?
tell me where have you been? I say, fuck these alright Brits. Who the fuck do they think they are? We can claim this is our land, but we ourselves are immigrants. Ihr sagt nun sieg heil. Ja, ich lach mich tot. Ihr versteht nicht, was ihr sagt. Wenn es das Recht noch geben, wenn es nach euch auf der Jagd. Ja, ihr seid nicht das Ehrenvolk. Ihr seid Outback, White Trash, Hillbillies in suits. No, this place don't belong to only you. No, it doesn't belong to me or you. Fuck these Nazi pricks. Who the fuck do they think they are? We can't claim this is our land, but we ourselves are immigrants. I say fuck these alright pricks. Who the fuck do they think they are? We can't claim this is our land, but we ourselves are immigrants. America, America, America. It's time to wake up. America, America, America. It's time to wake up. I can't believe this is happening. Man, we're way off track. Now we got law and order at imaginary borders this time.